Bonjour et bienvenue sur RDL 103.5 pour la CC Radio. Celle-ci sera notre dernière émission pour cette année. Pour vous rappeler, donc notre classe, la seconde 3, avions comme projet de créer une radio pour présenter notre lycée et pour parler aussi de différents sujets comme donc le sport, l'écologie, le voyage et la vie au lycée.
Nous allons tout de suite commencer avec la rubrique sport. Sortez vos gants!
Vous voilà sur Olympico, mesdames et messieurs. Pour vous mettre un peu dans l'ambiance, voici une musique qui pourrait vous mettre la puce à l'oreille. Je pense que vous avez compris que notre sujet d'aujourd'hui est le MMA. Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne sais pas beaucoup de choses sur le MMA. Peux-tu nous dire ce que c'est ?
Le MMA, c'est un sport de combat. Enfin, je pense que vous le savez quand même. Bon, un peu de sérieux, c'est un sport qui mélange différents arts martiaux comme la boxe anglaise, la lutte, le judo et plein d'autres.
Ah oui, c'est vrai, ça me revient. Mais tu pourrais m'aider encore plus en me rappelant les règles ?
Oui, c'est déjà. Alors, t'as pas le droit de tirer les cheveux, de mordre ou de crever l'œil de l'autre, ce qui paraît un peu logique. Et bien sûr, pas de coups dans les parties génitales parce que ça fait un peu mal à vrai dire.
Pas qu'un peu, j'imagine. Mais tiens, je me demandais quels sont les avantages de pratiquer la MMA ? Et ça vient d'où ? Parce que, tu sais, en France, les compétitions de MMA sont interdites par les mineurs.
Bon, alors déjà, pour vous, messieurs, et mesdames aussi, hein, ça muscle tout le corps. Donc ça passe du petit orteil à la nuque, en passant par les bras, les jambes, et voilà. La MMA, c'est un sport qui nous vient donc du Brésil. Là-bas, ce sport, il a commencé en 1993, et ça fait donc déjà un moment que ça existe.
Bon, je crois que je vais me mettre à le MMA. J'aurai peut-être enfin mon summer body. Mais d'après mes recherches, tout le monde ne se rencontre pas. Il y a des catégories de poids comme à la boxe, non ?
Oui, heureusement. Sinon, imagine, tu vois un combattant de 60 kilos combattre contre un de 90 kilos. Ça serait pas très équitable, franchement.
Ah oui, il risque d'y avoir un meurtre. On va éviter.
Oui, c'est sûr. Cher auditeur, donc on vous a trouvé une personne qui pourrait peut-être vous éclairer sur le MMA. Salut Ryan, merci d'être venu.
Merci beaucoup de l'invitation.
Mais avec plaisir. Donc, je pense que tu as compris que tu étais là pour la MMA. Du coup, est-ce que tu es prêt à la première question ?
Je suis prêt.
Ok, donc bon, alors, est-ce que tu as déjà un joueur de MMA que tu suis dans toute compétition confondue ou tu penses pouvoir nous le présenter aussi ?
Oui. Alors moi, j'apprécie beaucoup un combattant qui s'appelle Max Holloway, qui est dans la catégorie lightweight, donc la catégorie léger. Et, enfin, la catégorie léger et la catégorie plume aussi, parce qu'on peut faire les deux en MMA. Et du coup, c'est un combattant hawaïen qui est très très fort et qui est connu pour son striking. Le striking, c'est le principe de percuter l'adversaire avec les pieds ou les poings en particulier, parce qu'il y a plusieurs sports qui se rassemblent dans le MMA, comme Emeline a dit juste avant.
D'accord, merci beaucoup. Et du coup, tu parlais des... Mais du coup, les compétitions, t'en suis une en particulier, comme l'UF 362 ou...
Oui, moi je suis en particulier l'UFC, mais aussi le PFL Bellator et un peu le ONE.
Mais tu peux nous expliquer la différence entre l'UFC
Alors en fait, c'est des organisations qui appartiennent chacun à des patrons et souvent c'est dans d'autres pays. Donc par exemple, pour les États-Unis, on a l'UFC, donc c'est surtout aussi c'est la compétition la plus connue dans l'Occident. Et par exemple, en Asie, on a le ONE. Donc là c'est pour les combattants asiatiques en général.
Ok, merci. Je sais que ça fait peut-être un peu longtemps, mais je sais pas si tu te rappelles du combat Doumbé Baki.
Je m'en rappelle très bien.
Oui, et du coup, tu peux nous dire ce que t'en as pensé, toi ?
Je vais admettre que j'étais pour Cédric Doumbé, mais donc je suis assez déçu quand même, mais je pense que la décision de l'arbitre est assez juste quand même. Donc, c'est pas une erreur selon moi.
Oui, mais Doumbé, du coup, on est d'accord que c'est un combattant français ?
C'est un combattant franco-camerounais, et il est né au Cameroun.
Ah, d'accord. Et du coup, est-ce que maintenant, tu attends une revanche?
Oui.
Je pense comme tout le monde.
Oui, oui, oui.
Oui. Mais du coup, est-ce que tu regardes aussi un peu de MMA féminin? Pas forcément suivre, mais regarder.
Sur les grandes lignes, oui, je regarde. Ouais, je regarde très très peu, j'avoue. Mais j'aime bien parfois regarder, ouais, ça dépend.
Et petit lien d'ailleurs, notre dernière émission portait sur les femmes. Donc je vous invite à écouter toutes nos émissions en podcast sur le site de RDL 103.5 ou sur MBN pour les élèves du lycée. En tout cas, moi je me suis bien amusée et j'ai appris beaucoup de choses. Merci Ryan d'avoir pu venir et nous faire découvrir ce sport.
Bah, je vous en prie.
Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouvera pour une prochaine émission, sûrement l'année prochaine. Donc. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for? One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for? Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire.
Emeline Capucine et à toi Ryan pour cette interview. Franchement, je pense me mettre à la MMA comme toi Capucine. Maintenant, nous allons passer du combat physique à vocal avec Marie pour la rubrique Dizart.
Exactement. C'est l'heure d'écouter Art et Culture. Aujourd'hui, on va parler de gospel. Alors, je suis extrêmement contente de vous parler de ça. Vous allez savoir pourquoi et pour ça, il faudra entrer dans l'histoire. Au XVIIIe siècle, la terre remue et les pelles coupent. C'est au temps de l'esclavage que commence notre épopée. Assez triste donc. Un son, fort, espéré, triste, perce pour la première fois l'air. Le gospel est un genre musical qui a depuis longtemps révolutionné les genres classiques. C'est à ce temps-là que les esclaves africains travaillaient dans les champs de blé en Amérique du Nord. Et bah fallait bien survivre, donc ils chantaient. Et puisqu'ils n'avaient pas d'instrument, tout était a cappella. A cappella, ça veut dire comme à la chapelle, donc juste les voix. C'était en général un appel-réponse, où une chorale répétait ses chants aux solistes. Ils chantaient soit pour synchroniser leurs mouvements, exprimer leurs souffrances, ou encore transmettre des messages contre leur maître, et ce, sans que ces derniers le sachent. Un jour, ces work songs, donc ces chansons de travail pour les nuls en anglais, devenaient bien plus que ça. Les esclaves apprirent les prières de la Bible et des messes. De cela, ils parvinrent à créer leur propre religion chantée, le Negro Spiritual. Ces chants sont chrétiens, donc ils sont pacifistes et se tournent en général sur l'amour. Lorsque l'esclavage fut aboli par le Congrès américain en 1865, les chaînes se sont cassées et les voix, elles, se sont élevées. Les pasteurs noirs américains intégrèrent le Negro Spiritual dans leurs sermons. Des ensembles vocaux chantèrent le gospel et sont cette fois accompagnés d'instrumentistes. Ils se sont fait enregistrer sur des disques et ont donc pu toucher enfin du doigt une certaine popularité. Parmi eux, pardon pour l'accent anglais, il y a le Fisk Jubilee Singers. Et le Hampton Singer. Ah, tellement belle cette musique. Et plus tard, les instruments sonnent, cette fois dans les introductions musicales. Et le jazz, le gospel quartet et le blues se mêlent au negro spiritual, enrichissant les harmonies, serrant les rythmes, donnant de la pêche quoi. Ces mélanges élaborés allument la flamme et donnent naissance au gospel moderne. Ce nouvel art a été soutenu avec énergie par Thomas Dorsey, un grand compositeur et pianiste. Grâce à lui, de nouvelles organisations de chorales gospel ont vu le jour. J'ai dit au début que le gospel s'est par la suite transformé en pop et en rock. Et pour cause, écoutez ça. Vous avez entendu ? il y a le synthé qui s'est mêlé au piano classique. On sent déjà qu'il y a une petite évolution, non ? Mais finalement, pourquoi je parle du gospel ? Eh bien, c'est puisqu'il intensifie nos émotions et notre vie. Il donne espoir, crée la haine et la joie, explore même les recoins inconnus de la voix. Ses musiques, elles diffusent avec le blues une expression intense par leur timbre. C'est pas la religion qui attire mon oreille, mais sa capacité à rassembler, à célébrer la vie comme une fleur toujours épanouie. C'est beau, hein ? La lumière brille dans les voix et c'est ça qui donne à ses chants une folle envergure. Il existe aussi une autre figure incroyable du gospel. Mahalia Jackson, vous la connaissez ? Elle, elle fait vibrer son public. Et lorsque je dis ça, c'est pas un petit sourire, hein, c'est pas une admiration, c'est bien plus. Le public transpire avec elle, ferme les yeux et avec une force intérieure hoche la tête dans une tristesse, une joie, une colère. Alors oui, elles sont fortes ces musiques, fortes de vie. Je comprends mieux pourquoi le gospel est devenu le pilier de nouveaux genres musicaux. Ce que j'apprécie le plus, c'est l'interaction entre le public et les musiques. C'est pas une écoute inactive, hein, mais danser, claquer des mains et chanter. De toute manière, même si vous ne souhaitez pas danser, votre pied tapera les pulsations, vous ne pourrez plus rien faire, et là vous serez perdu.
A closer walk with thee. Grant, granted you, Lord, if you'll be in our daily, our daily walking, Lord, in close with me. Oh, let it be, dear Lord, Lord.
Waouh, merci Marie. Je savais même pas de quelle origine c'était le gospel. Bon, on a entendu dire qu'il y a des interviews pour la rubrique écologie. Hâte de voir si les moutons seront interviewés.
Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui la Discussion Verte vous propose un merveilleux voyage à travers les déchets produits au lycée. Et oui, avec plus de 1200 élèves, 130 enseignants et agents et 8 moutons, ne les oublions pas, le lycée Camissé est forcément un gros producteur de déchets en tout genre. Petit tour d'horizon de la gestion des déchets sur le terrain avec nos deux reporters, Marie-France et Julien. Ils sont allés à la rencontre de plusieurs personnes dans l'établissement. Tout part de la salle des professeurs après un bon petit café.
Ouais, il était bien bon ce petit café. Attends, je jette ça où ? T'as déjà vu cette nouvelle poubelle ?
Ah ben non, attends, je viens de voir là, c'est pas du tout la même poubelle. Attends, t'as ton gobelet à café, donc il y a deux parties. Alors une partie apparemment compostable, des petites icônes, et une autre partie pour tout ce qui est carton. Bah, moi je pense, Julien, il faudrait que tu mettes dans la partie carton.
Attends, je vérifie juste que mon gobelet est bien en carton. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus ? Il y a du plastique. A priori dans ce gobelet. Alors je mets ça où du coup ?
Regarde, il y a une bouteille qui est dessinée ici, donc c'est peut-être aussi le plastique.
Ouais. Bah écoute, je vais mettre ça dans la poubelle jaune.
Alors Julien, je vais quand même te donner un petit conseil, c'est qu'il vaudrait mieux que tu utilises ta propre tasse, puisque depuis quelque temps, la machine à café permet de mettre aussi une tasse. Donc ça serait mieux quand même que d'utiliser à chaque fois un carton, même si c'est déjà très bien que tu recycles évidemment ton gobelet. Mais je pense que tu peux aller encore plus loin.
Ah bah tiens Marie-Christine, oui, je vois que tu as une tasse en main. Justement, Marie-France me conseillait d'utiliser plutôt une tasse que d'utiliser à chaque fois un gobelet. Toi, ça fait longtemps que tu as ta propre tasse ?
Oui, ça fait longtemps et puis j'avais essayé d'insuffler l'idée de mettre une machine à café avec détection parce que sinon on a une accumulation de gobelets. Donc au départ c'était en plastique, donc c'est pas super. Maintenant c'est en carton, mais je suis pas sûre que ça soit toujours une bonne idée d'utiliser le carton. Donc il faut rapporter sa tasse et après il suffit de mettre et puis tout va bien. Tu peux boire ton café tous les jours avec ta tasse.
Ok, bah je vais en ramener une et puis je vais tester ça.
Voilà, vas-y, essaye.
Et du coup, la machine, elle lave la tasse aussi ou...
Ah non, non, là, ça n'existe pas encore. Tu prends tes petites mains et tu nettoies.
Ok.
Donc, Isabelle, je vois que tu as une gourde sur la table. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es passée de la bouteille en plastique à la gourde ?
Alors, il y a tellement longtemps que je suis passée de la gourde à la bouteille en plastique que je ne saurais plus vous expliquer pourquoi. Mais il est certain que pour moi, c'était le premier geste à faire.
Alors, si on regarde un peu autour de nous, dans la salle des professeurs, on peut voir qu'effectivement, de plus en plus de collègues utilisent des gourdes. Et d'ailleurs, le lycée a mis en place une vente de gourdes. Donc là, on a quand même une étape importante qui semble en train d'être franchie, du moins chez les enseignants. On va voir si c'est le cas aussi chez les élèves.
Voilà, on est arrivé au foyer et la première chose qu'on voit, c'est qu'on a les mêmes poubelles de tri. Elles sont bien pleines d'ailleurs. On va se diriger vers la machine à café. Il y a quelques élèves là qui viennent de prendre un café. Puis on va leur poser la question, qu'est-ce qu'ils font de leur gobelet ? Est-ce qu'ils savent bien dans quelle poubelle la mettre ?
Moi personnellement, je le mets dans la poubelle qui est spécialement pour les gobelets à côté de la poubelle.
Alors la poubelle spéciale pour les gobelets, ah du coup c'est la noire là, c'est ça ? Ok, donc ça on n'a pas en salle des profs, mais effectivement il y a une poubelle spéciale gobelet. Et du coup on voit qu'il y a aussi des gobelets dans la jaune, dans la noire. Qu'est-ce que vous en pensez du tri des déchets au foyer ?
Bah, c'est pas forcément respecté par tous les élèves, parce que là on peut voir qu'il y a une poubelle séparément, exprès séparée en deux, et puis bah, pour ce qui est recyclable, non. Puis bon, c'est pas respecté, mais bon. Ça, c'est le travail de chacun.
Vous aviez une petite formation faite par les éco-délégués au moment où les poubelles ont été mises en place au lycée. Est-ce que vous avez assisté à cette formation ? Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que les éco-délégués vous ont expliqué ?
Alors, il y a des poubelles un peu partout dans le lycée qui sont divisées en deux. Une est jaune et l'autre est grise. Il me semble que la poubelle avec le couvercle gris, c'est pour les déchets alimentaires. Et la jaune, moi je jette mes mouchoirs et mes gobelets de café dedans.
Est-ce que vous avez pris l'habitude maintenant d'utiliser ces poubelles ?
Oui.
Et en dehors du lycée, est-ce que vous utilisez aussi vous avez commencé à mettre en place du tri chez vous, dans vos familles ?
Moi, chez moi, j'ai une poubelle aussi pour la nourriture et une autre pour tout le reste.
D'accord, donc c'est des habitudes qui sont en train de se mettre en place.
D'accord, bon, on vous laisse boire votre café. Merci.
Merci. Nous sommes arrivés au restaurant scolaire et nous allons rencontrer le chef.
Tout à fait, donc merci déjà de nous recevoir parce que vous êtes en pleine préparation des repas de midi. Donc on aimerait savoir quels sont les déchets qui sont créés finalement chaque jour à la cantine et comment vous gérez ces déchets.
Bonjour, nous avons plusieurs sortes de déchets en fait. On a notamment beaucoup de carton, du verre, du métal, du biodéchet, du reste alimentaire en fait. Donc au niveau des traitements, tout est trié. Donc les cartons, tout ce qui est emballage plastique sont triés dans les bennes jaunes et noires. Ensuite, on a du incinérable qui part dans les bennes vertes. Ensuite, les biodéchets, alors ça part au parc Agrivalor. Donc il y a deux ramassages par semaine. Et puis pour ce qui est du verre, on a une collecte derrière le bâtiment et quand il y en a une quantité importante, c'est emmené en déchetterie.
Pour les biodéchets, est-ce qu'un compost à l'intérieur du lycée, ça a été envisagé ?
On a un compost à l'intérieur du lycée, c'est Sébastien Heibert qui s'en occupe. Donc de temps en temps, il prend une partie des biodéchets et il alimente le sien. C'est lui qui il a besoin lui pour l'espace vert en fait. Sinon, la plus grosse partie, ça part chez Agrivalor.
Et au niveau du pain, est-ce qu'il y a beaucoup de restes ?
Alors, pour le pain, on a travaillé pas mal là-dessus, en fait. Et là, on a fait beaucoup d'économies, en fait, au niveau du pain. Puisque je me rappelle, il y a quelques années en arrière, on était à 90 pains par jour. Ensuite, on est passé à 45. Et maintenant, on est à peu près à 35 pains par jour. Donc il y a très peu de restes de pain, puisqu'on l'a mis après, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fin de chaîne, les gens viennent chercher après qu'ils aient leur plateau rempli, ce qui leur évite de remplir en ne sachant pas trop ce qu'ils allaient manger. Donc là, une fois qu'ils ont vu leur plateau, ils peuvent aller chercher le pain et ils en prennent beaucoup moins. Et puis ils le mangent. Mais en moyenne générale, je dirais sur une semaine, on jette à peu près l'équivalent d'une dizaine de pains.
Bon, merci, on vous laisse retourner au fourneau.
Merci, bonne journée à vous.
Alors sur les conseils du chef, nous allons donc aller à la rencontre de Sébastien, agent technique territorial, que nous rencontrons dans le labyrinthe d'agrément végétal. Bonjour.
Bonjour.
Alors le chef nous a dit qu'une partie des biodéchets était récupérée pour le compost, pour le jardin d'agrément, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait, oui. Donc il y a une partie de la nourriture qui est prise en compte et qui est mise en compost, ainsi que les déchets verts, qui là est recyclé également. En compost et voilà donc et il y a une partie du compost qu'on gère également ici dans le sens où on le réutilise au pied des arbres, au pied des arbustes, de ce qui a été planté dans le labyrinthe végétal également.
Et ça fait à peu près combien d'années que vous avez ces pratiques ?
Donc moi, ça fait 13 ans que je suis ici, donc on va dire, allez, 10 ans. Il y a 10 ans, ouais, j'ai commencé vraiment à faire ça, quoi.
Et par rapport à vos autres fonctions, vous vous occupez aussi du tri des poubelles de recyclage qui ont été mises en place récemment au lycée ?
Pas personnellement, non. Non, le reste, c'est les dames à l'intérieur qui font le ménage et qui s'occupent de ça, quoi.
Alors, on est dans le hall du lycée et justement, on vient de croiser Barbara, qui est agent d'entretien, c'est ça ? Au lycée, et donc on va lui demander comment elle gère ses poubelles de tri.
Alors oui, effectivement, on a des poubelles de tri qui ont été placées dans les couloirs, aux endroits bien spécifiques, bien voyants. Et nous, on ne trie pas. On ne va pas commencer à mettre les mains dedans. Donc c'est surtout aux jeunes de bien faire les choses. On les prend une fois qu'ils sont pleins et on les met dans les poubelles adéquates. Ça veut dire les jaunes dans le triage et les gris qui va directement dans le non-recyclable, ça veut dire dans les déchets classiques.
Et donc, est-ce qu'au niveau du tri fait par les élèves, ou les enseignants d'ailleurs, est-ce que c'est plus ou moins respecté ?
Pas trop.
Donc il faudrait encore plus sensibiliser les élèves et les enseignants aussi à ces différentes poubelles qui existent.
Tout à fait. Tout à fait. Si maintenant les jeunes et les professeurs se mettaient aussi, ben voilà quoi. C'est-à-dire, c'est une chaîne. Nous, on veut bien mettre dans les poubelles adéquates, mais à condition que les jeunes et les professeurs fassent aussi leur part. Et comme ça, la boucle est bouclée.
Alors effectivement, comme l'a dit Barbara, la boucle est bouclée. Chacun doit y mettre du sien pour que le tri soit efficace. Le tri, c'est vraiment l'affaire de tous.
Tout à fait. Merci Marie-France et Julien pour cette immersion très intéressante. J'ai cependant une question encore pour vous. Qu'en est-il de la revalorisation de certains déchets ? Y a-t-il par exemple, je ne sais pas, des collectes organisées au lycée ?
Oui, absolument. Certains déchets sont collectés pour être valorisés. On a par exemple les éco-délégués qui ont mis en place dans chaque salle de classe une petite boîte pour collecter les fournitures scolaires usagées. Stylos, surlinières, feutres, etc. Ensuite, ces matériels sont récupérés par l'association « Ça me donne des ailes » qui va remettre tout ça à une autre association qui s'appelle TerraCycle France. Alors TerraCycle France va peser les déchets récupérés et va faire un don à l'association Sam Donnezel, qui lui permettra ensuite d'acheter du matériel sportif adapté au handicap d'un enfant qui s'appelle Sam, d'où le nom de l'association Sam Donnezel. Alors Raphaël, tu vas me demander maintenant que fait TerraCycle avec les fournitures récupérées ?
Mais oui Julien, que fait TerraCycle avec les fournitures récupérées ?
Ben écoute bien, TerraCycle remet les matériels à une entreprise qui les transforme en mobilier d'extérieur. Ce sont par exemple les tables et les bancs que l'on retrouve sur certaines aires d'autoroute. Alors tu penseras à ça la prochaine fois que tu prendras un petit café sur la route des vacances. Dans la même veine, on a aussi les cartouches vides d'imprimantes. Donc on a beaucoup d'imprimantes et de copieurs au lycée. Et ces cartouches sont collectées pour en faveur de la Ligue contre le cancer. Donc on a 3 bacs de collecte au lycée qui ont été mis en place par le comité départemental du Haut-Rhin de la Ligue contre le cancer. Le siège est d'ailleurs à Colmar. Alors tous les trimestres, on a un membre du comité qui va récupérer les cartouches et qui va ensuite les revendre à une société de reconditionnement parce que les cartouches vont être réutilisées, remplies à nouveau. Et tout cela au profit de la recherche au niveau local, donc la recherche en Alsace, au profit des malades haut-rhinois ou encore des hôpitaux du département.
Quelle belle initiative ! Si en plus nos déchets servent à financer de telles actions. Mais dis-moi Julien, toi qui es professeur documentaliste, y a-t-il des déchets spécifiques au CDI ?
Alors, attends, je réfléchis. Bon, j'aime pas trop considérer ça comme des déchets, mais régulièrement, on retire des livres des étagères du CDI. Ce sont des livres qui sont trop abîmés ou bien qui sont obsolètes. On appelle ça d'ailleurs le désherbage. On retire en quelque sorte les mauvaises herbes du CDI. Et ensuite, on va donner ces livres à l'association Espoir qui va les remettre en vente dans leur salle des ventes à Colmar.
Espoir, une salle des ventes. Tu peux nous en dire plus ?
Oui. Espoir, c'est une association locale qui œuvre depuis plus de 50 ans pour assurer l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement de personnes en difficulté sociale et ou professionnelle. Alors pour financer ces activités, ils ont créé une salle des ventes. Ça se trouve rue Ampère à Colmar, c'est près du collège Berlioz pour ceux qui connaissent. Et ils vont remettre en vente des objets ou des meubles qui sont récupérés chez les particuliers ou les entreprises. D'ailleurs, Le lycée remet aussi à espoir les anciens ordinateurs qui sont retirés, mais qui sont encore en état de fonctionnement. Après une remise à zéro de ces ordinateurs, ils vont être revendus aussi en salle des ventes.
Mais oui, il y a aussi tout ce qui est du domaine de l'informatique et de la gestion des déchets. Et ce qui n'est plus en état de fonctionner, ça part où alors ?
Alors, tout simplement à la déchetterie, où on va trouver des bacs dédiés aux déchets électroniques et informatiques. On appelle ça les D3E, les déchets électriques et d'équipements électroniques. Alors ça va repartir vers des circuits de revalorisation plus importants. On a des entreprises spécialisées qui vont faire le tri. On trouve beaucoup de choses dans des ordinateurs, dans les unités centrales. On a du plastique, on a des métaux lourds comme le mercure, le plomb. On a aussi des métaux précieux. De l'or, du palladium. Donc tout ça, ça va être trié, puis reconditionné. Et pour info, une unité centrale, elle peut être recyclée à 98%.
Eh bien, merci Julien. À travers tous ces exemples, on voit que le lycée s'engage dans le tri et la revalorisation de certains déchets, ce qui donne aussi une dimension sociale au recyclage.
Oui, effectivement. Donc la revalorisation de certains déchets permet à des associations ou des organismes de récolter des fonds pour financer leurs activités. Et ce sont souvent des choses assez simples à mettre en place au sein d'un établissement scolaire ou d'une entreprise. Alors, à bon entendeur.
Et parce que c'est aussi bon pour la planète d'avoir une bonne gestion des déchets, nous vous proposons maintenant d'écouter la chanson « Ta planète » du groupe Trio.
Et toi, qu'est-ce que tu vois ? Et toi, qu'est-ce que tu vois ?
Là-bas, les aurores boréales, les neiges éternelles, toute la beauté du monde qui nous interpelle. Je repense à nos enfants sous la voie lactée. Un beau jour, c'est la lune qui vient me parler.
Et toi, qu'est-ce que tu vois ? Et toi, qu'est-ce que tu vois ?
Je vois le soleil qui brûle au-dessus de moi, l'Amazonie qui fume à côté de toi. Mes frères et mes sœurs sur la même route, forcés de quitter leur terre, coûte que coûte.
Et toi, qu'est-ce que tu vois ?
Qu'est-ce que tu vois ?
Et toi, qu'est-ce que tu vois ?
Qu'est-ce que tu vois ?
Et toi, qu'est-ce que tu vois ?
Qu'est-ce que tu vois ?
Et toi, qu'est-ce que tu vois ?
C'est l'appel des étoiles. Dans la ville folle a changé mon destin d'homme parmi les hommes. Retrouver l'essentiel après des années, quand les marchands de sable veulent te faire oublier.
Dans ton corps, dans ton cœur, c'est ta planète, ta maison, ton trésor que tu maltraites. C'est ton arbre que tu brûles d'une allumette. Tu as entre tes mains le soleil de demain. Dans ton corps, dans ton cœur, c'est ta planète, ta maison, ton trésor que tu maltraites. C'est ton arbre que tu brûles d'une allumette. Tu as entre tes mains le soleil de demain.
Dans ton cœur,
et toi,
ta planète,
qu'est-ce que tu vois ?
Ton trésor,
et toi,
tu m'as pris,
qu'est-ce que tu vois ?
Tu l'as brûlé,
et toi,
tu l'as vu, mais
qu'est-ce que tu vois ?
Dans ton cœur,
et toi, qu'est-ce que tu vois ?
Merci pour cette discussion et ces interviews qui nous ont bien éclairés. À vous, Ina et Lisa, pour Ma vie au lycée avec une discussion sur le CNU.
Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Ma vie au lycée. Nous sommes Ina et Lisa.
Bonjour à toutes et à tous. Pour cette émission, on va donc parler du SNU.
Exactement. Pour commencer, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire le SNU et qu'est-ce que c'est ?
Alors, le SNU, c'est Service National Universel. C'est un séjour de cohésion de 12 jours qui regroupe tous les jeunes de la France de 15 à 17 ans.
Ah d'accord, mais alors pourquoi tu veux nous en parler ?
Bah j'en parle parce que comme tu le sais peut-être, maintenant il y a un stage à faire en fin de seconde. Et le SNU peut compter comme stage. Et J'ai aussi participé, donc j'aimerais bien vous partager mon expérience.
Ok, mais du coup, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ?
Bien sûr. Alors, pendant le SNU, on apprend beaucoup de choses, comme vivre avec les valeurs de la République. On rencontre des professionnels dans le domaine de la sécurité, comme des gendarmes, des policiers, des réservistes de l'armée de terre et même des marines. Dans chaque séjour, on aborde les thèmes défense et mémoire, le sport et les Jeux olympiques et paralympiques, l'environnement, la résilience et la prévention des risques.
Tu parles des valeurs de la République, mais est-ce que c'est vrai qu'on chante la Marseillaise tous les matins ? Ça m'a vraiment l'air très militaire.
Alors oui, c'est vrai. En gros, tous les matins, pour ma part en tout cas, tout le monde se réveille à 6h30 et le petit déjeuner commence à 6h50. Ensuite, à 8h20, tout le monde se retrouve sur la place d'armes, on lève les couleurs, puis on chante la Marseillaise. Après tout ça, les cadres lancent les activités, la journée se passe normalement et le soir, il y a un temps démocratique.
Et c'est quoi un temps démocratique exactement ? C'est genre un moment où vous parlez de votre journée ?
Alors exactement, c'est ça. Et on peut aussi faire des débats aussi.
Des débats politiques ?
Alors non, pas des débats politiques parce qu'on n'a pas vraiment le droit d'en parler. Mais justement, en parlant de la politique, c'est une question qui revient souvent. Et donc forcément, puisqu'il y a des jeunes qui viennent de tous les milieux sociaux, et bah, la question de la politique revient assez dans nos discussions. Donc forcément, on sait à peu près qui se place où.
D'accord. Et du coup, parmi vos journées qui m'ont l'air vraiment très très chargées, vous avez des temps libres. Et en plus, je pense pas que le téléphone soit vraiment autorisé, non ?
Bah alors du coup, on a des temps libres et ces temps libres, ils se passent en même temps que le temps de téléphone. On a à peu près une heure avant de manger. Et puis, ne pas avoir le téléphone tout le temps, ça permet de parler vraiment avec tout le monde, donc de connaître tout le monde, ça permet vraiment de sociabiliser avec tout le monde.
Ah ouais, ok. Et donc, pour mieux sociabiliser, je pense qu'en journée, pendant les activités, vous êtes en groupe, non ?
Alors, dès le début du séjour, justement, on est séparés en maisonnées. Pendant mon séjour, on était environ 130, et donc en tout, il y avait 10 maisonnées d'à peu près 13 personnes. Et on reste toute la journée avec sa maisonnée.
Et si je veux participer, comment je fais pour m'inscrire ?
Alors, il y a un site internet SNU où tu peux savoir plein de choses, où tu peux justement t'inscrire. Il faut juste que tu choisisses les dates auxquelles tu veux participer.
Et est-ce qu'après le SNU, il y a quelque chose à faire pour le terminer complètement ?
Oui, il y a un diplôme, mais pour le valider à 100%, il faut faire une mission d'intérêt général de 84 heures dans une association.
D'accord. Et pour toi, pourquoi il faudrait faire le SNU ?
Alors cette réponse-là, elle est très personnelle parce que justement, il y a des gens qui peuvent faire le SNU pour d'autres raisons. Par exemple, il y en a qui veulent, qui s'imaginent un avenir dans l'armée. Et donc, ça ouvre vraiment beaucoup de portes dans ce domaine-là. Mais pour moi, c'est pas pour ça que je l'ai fait. C'est plus pour le côté social, parce que vraiment, on rencontre plein de gens. Et d'ailleurs, j'ai gardé contact avec la plupart d'entre eux.
D'accord. Donc, pour conclure, pour toi, la politique, c'est pas le centre et c'est pas ce qui est le plus ressenti par les jeunes au SNU. Et pour toi, il ne faut pas hésiter à s'inscrire, car même si ça paraît impressionnant, ça reste une expérience inoubliable.
Alors, non, la politique n'est pas au centre. Après, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est au centre. Moi, personnellement, je pense pas parce que c'est pas forcément une question qu'on se pose. Après, peut-être qu'on n'est pas à ce niveau-là encore. Mais oui, c'est vraiment incroyable au niveau social en tout cas.
Ok, bah écoute, merci beaucoup Lisa de nous avoir partagé ton expérience. Merci, chers auditeurs, d'avoir suivi notre vie au lycée.
Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel artificiel. tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel, artificiel.
Merci beaucoup Ina et Lisa pour ces informations sur le SNU, c'était vraiment trop bien. Je sais pas vous, mais moi, chers auditeurs, j'ai hâte d'être en vacances. Alors laissons place à Raphaël et sa rubrique Voyage.
Et bienvenue sur la rubrique Votre voyage s'illumine. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 pays les plus visités en été. Et c'est Lisa et Ina qui vont les deviner. Est-ce que vous êtes prêtes, les filles ?
On est prêtes.
Prêtes.
Alors, bah, c'est parti.
Bon, bah, déjà, je pense les pays du sud, donc. Enfin, du sud de l'Europe en tout cas. Ouais. Donc, Espagne, Italie.
Tout ce qui est en rapport avec la plage, ça c'est sûr.
Après, la Croatie, c'est connu aussi.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais toutes les îles. À mon avis, genre la Martinique, tout ça, ça doit être...
Majorque, peut-être.
Ouais, c'est possible. Après, il y a aussi les montagnes qui attirent beaucoup, genre, je sais pas, Italie. Ouais.
Bah, peut-être les États-Unis aussi, c'est assez connu quand même.
Ouais. Après, l'Amérique du Sud aussi, ça approche beaucoup.
Genre Brésil, Mexique.
Ouais.
Ouais.
Eh ben, vous en avez trouvé presque tout. Donc, en première place, vous avez Majorque. En deuxième place, vous avez Bali. En troisième place, vous avez donc les États-Unis. En quatrième place, le Sénégal. En cinquième place, vous avez Split, donc la Croatie. En sixième place, vous avez la République dominicaine. Ensuite, en septième place, vous avez la Grèce. En huitième place, vous avez le Mexique. En neuvième place, vous avez la Tanzanie. Et en dixième place, il y a l'Italie. Du coup, après ces beaux pays et aux nombreux paysages, on va revenir en France. Et ouais, la France, elle a aussi de très beaux paysages. Et toi, Emeline, tu aimes voyager en France ?
Ben, franchement, moi, mes vacances d'été, la plupart du temps, je trouve que c'est mieux de les passer en France parce que dans d'autres pays, tu vois, c'est beaucoup touristique et tout, donc on a moins le temps de visiter et tout, alors que ben, en France, c'est vrai qu'on a un patrimoine quand même... assez grand au niveau ben, environnemental quoi.
Ok, ben, je vais pouvoir te tester. Donc tu es prête?
Oui, vas-y.
Donc je vais te laisser 30 secondes et tu vas devoir me citer à ton avis les plages françaises que tu connais.
Ok.
Donc chrono s'il vous plaît.
Ok, c'est alors je pense que les îles, donc ça rapproche beaucoup, donc ce qui est Guadeloupe, donc je pense qu'il y a la plage de Sainte-Anne en Guadeloupe qui pourrait être, enfin qui est super belle. Si on reste maintenant dans la France métropolitaine, je pense aux Pyrénées Atlantiques avec la plage de la Côte des Basques aussi qui est vraiment pas mal. La plage d'Argent aussi à Ajaccio qui est plutôt bien.
Ok. Donc, bah, t'en connais déjà pas mal des plages. Maintenant, je vais les comparer avec ce que t'as dit et ce que bah, moi, j'ai trouvé. Et Donc, on a, pour la France, on a la Côte d'Azur. Il y a aussi les Antilles françaises, donc la Martinique, Guadeloupe. Et on a la plage de Calanque. C'est entre Marseille et Cassis.
Ah ouais, j'ai vu aussi pour cette plage, je crois, il faut s'inscrire, non ? Ah, je crois qu'il y a certaines plages où maintenant il faut s'inscrire.
Il y a aussi pour la plage d'Argent, où il faut aussi s'inscrire, comme tu as dit. Il y a la plage de Miramar, donc c'est à Biarritz. Et il y a la plage d'Argent, du coup, ben, à Ajaccio. Et toi, qui aimes la fête, tu m'avais pas dit aussi qu'il y avait un endroit où on pouvait la faire la fête ?
Ah oui, l'Orée de Mar. C'est, j'ai vu ça en fait. Souvent maintenant, ça passe sur les réseaux sociaux. C'est un endroit où, bah, des grosses boîtes de nuit, il y a là-bas, etc. Donc,
c'est vrai que t'aimerais bien y aller, quoi.
C'est vrai que ça me tente bien.
Ok. Donc, après avoir eu ton talent, Emeline, je vais vous faire écouter des destinations de plusieurs personnes.
Quelle est votre destination phare ?
Pour nous, notre destination phare, c'est la Grèce.
Ouais, c'est vraiment top.
Moi, je dirais que ce serait le Mexique.
Le Japon.
Alors actuellement, selon mes préférences et mes activités du moment, ce serait plutôt Londres.
New York.
Ben, cet été, je vais 2 semaines à Hambourg.
Alors, j'aurais tendance à dire Los Angeles pour moi.
J'en ai pas.
Alors, ma destination phare pour l'été, c'est la mer ou l'océan.
Merci, Emeline. Je suis content d'avoir peut-être donné l'envie de partir. Et d'ailleurs, pour toi, c'est quoi ta destination parfaite ?
Moi, je pense que la destination parfaite que je pourrais faire, ce serait peut-être Punta Cana.
Ok, et ben merci d'avoir écouté la rubrique Voix de voyage s'illumine. Il y a une prochaine fois, sûrement l'année prochaine.
Let it march again. Welcome to the paradise. Far.
Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé. Que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas.
Que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que viaje rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa chinchorreal. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla. Bien fría pa' bajar la sequía. Un poco de bombal y unos tragos de sangría pa' que te suelte. De coquito y como dice Ponzi, vamos a darle despacito pa' que te suelte poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico.
Vamos pa' la playa pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabulla. Vamos pa' la playa.
Dale lento. quiero meterle violento. Te puse reggaetón pa' que me baje ese cuerpo. Métele hasta abajo, está duro ese movimiento. El único testigo que tenemos aquí es el viento. Y dale, métele cintura, mátame con tu hermosura. Mira cómo me frontea, porque sabe que está dura.
Calma mi vida con calma, que nada hace falta si estamos juntitos andando. Calma mi vida con calma, que nada hace falta si estamos juntitos bailando. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabulla. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, baby, tú estás duro y me gusta.
Desde la isla del encanto.
Far, Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
Puerto Rico.
Welcome to the paradise.
Ah là là, Raphaël, tu m'as donné encore plus envie de partir en vacances. Et vous, chers auditeurs, quelle est votre destination préférée pour cet été?
En tout cas, on s'est très bien amusé avec vous et on espère que ce projet continuera.
Certains d'entre nous, d'ailleurs, reviendront l'année prochaine. Nous sommes fiers de cette radio, en tout cas.
Merci à vous, chers auditeurs, et merci à vous, RDL, de nous avoir accueillis dans ces locaux aujourd'hui.
Maintenant, nous aimerions faire une petite dédicace à une fille qui était donc dans notre classe et qui a participé au projet. On te souhaite joyeux anniversaire, Kaina.
Ouais.
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Kaina. Joyeux anniversaire.